le duo en fait qui n'existe pas vraiment, avec Richard Comte,
ouais,
qui a été enregistré dans une église en deux fois.
Alors, il m'a invité chez lui l'été, moi je reprenais, j'avais pas joué ma guitare depuis longtemps, et puis j'ai une petite église magnifique, il m'a laissé jouer comme ça, et puis il a mis son zoom, il m'a laissé son fils aussi qui avait 6 mois, puis il s'est barré comme ça. Donc j'ai gardé le gamin pendant 1h30. Et puis il a gardé ça sur son zoom. Et puis pendant le confinement, il a dit tiens, je vais réécouter ça. Puis il a dit c'est super, mais je vais chanter par-dessus. Il a chanté par-dessus, puis voilà. Ça a fait un disque a posteriori.
Ah super.
Avec toutes les,
ouais. Sur ton label
c'était sorti non, dans le vent. C'est pas sur le label.
Ah, d'accord.
Mais le vent, il protège.
Et alors ce soir, donc comment on s'organise la soirée? Il y a deux parties, je crois.
Il y a deux sets, justement, voilà, il y a ce duo qui n'a jamais existé en live.
Oh, ce sera une première, donc.
Ouais, ce sera complètement une première à Montreuil et ailleurs.
Voilà.
Et en plus, dans la ville de Richard.
Ouais.
Dans ma rue, même.
Dans sa rue. Et après, donc, voilà, cette formation qui est ici sous nos yeux, qui se retrouvera donc pour la deuxième fois, puisque, effectivement, c'était la première fois qu'on se retrouvait toutes et tous ensemble. Enfin, pas pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être eu déjà des croisements supervisant entre plusieurs membres.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Fabien merci, Gaston Christophe. Rameau. Il y avait Timothée Coste, Mathilde Proie, Fanny Métayer, David Merlot, Richard Comte. À ce soir. Donc c'est où? On peut dire l'adresse, je crois que c'est 1...
Ah, je sais plus. Gabriel Péri.
1 rue Gabriel Péri.
Avenue
Gabriel. Ouais. Et c'est au métro de Croix-de-Chavaux. Hein, je ne connais pas du tout celui-là.
Croix-de-Chavaux, c'est ça.
Métro Croix-de-Chavaux. Donc ce soir, merci beaucoup. À 16h30, dans une minute, l'émission La Rage dedans, une rediffusion dont le titre est Hommage à la Catalogne. Et ouais, à 17h30, Radio Espéranto. La semaine prochaine, le bassiste Louis Frère viendra nous parler de ses multiples projets, dont Les Jours qui brûlent, qui raconte le procès qu'il a vécu contre Pôle emploi et la violence institutionnelle sociale qui plane dans ce pays. Bonne année à toutes et tous, encore une fois, et puis à la semaine prochaine. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup.
Merci Christophe.
Ciao. Allez, salut.
Son studio, c'est dans le... Je me suis arrangé pour pas repasser.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Pas de rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le teint. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure, ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui ai laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maribin. J'étais blessé chez mon voisin. La rage, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage dedans, aujourd'hui nous allons parler d'Orwell et de son livre le plus célèbre, après 1984 et La ferme des animaux, c'est Hommage à la Catalogne. Mon invité aujourd'hui est Frédéric Goldbraun. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'heureux réalisateur du futur documentaire sur Hommage à la Catalogne. Alors, je cite les partenaires, les associations partenaires de ce film, Faisons vivre la commune, les amis IES de Maurice Rajfus, l'association du 24 août 1944, Redic. C'est une production, les films d'ici, et il sortira en 2025, au printemps 2025, et vous avez le soutien de la chaîne Histoire et du CNC.
Exactement, oui.
Voilà. Alors, Frédéric, avant de rentrer dans le vif du sujet, présentez votre parcours aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas.
Écoutez, je peux dire que au départ de ce projet, et ça a rapport avec mon parcours évidemment, il y a une rencontre que j'ai faite. J'étais un jeune, enfin il y a longtemps maintenant, hein, car
mais non, on est toujours jeune.
Je commence à être vieux. J'étais alors un jeune militant libertaire, et donc j'étais pas à la Fédération anarchiste, j'étais à l'Organisation révolutionnaire anarchiste, l'ORA, qui était une petite organisation qui existait dans les années 70, et j'étais allé et qui essayait de trouver une sorte de synthèse entre le marxisme et l'anarchisme. Et j'étais allé en 1977, 2 ans après la mort de Franco, j'étais allé à Barcelone pour les journées libertaires internationales. Et c'était un événement très important, juste après la dictature. On avait l'impression que l'anarchisme espagnol était en pleine renaissance. Il y avait eu un meeting de la CNT qui sortait à peine de la clandestinité, qui avait rassemblé 300 000 personnes, je crois, au parc de Montjuïc à Barcelone. Et ces rencontres avaient lieu en juillet 1977, donc à l'anniversaire des événements de juillet 1936. Et il y avait plusieurs aspects dans ces rencontres, et l'un de ces aspects, c'était des projections de films dans un cinéma du Barrio Chino, qui est un vieux cinéma qui s'appelait le Diana. Et c'est la première fois que ces images de la Révolution espagnole et de la guerre d'Espagne étaient projetées en pellicule, hein, avec leur support original. Et voilà, donc on était très très nombreux à ces rencontres de très nombreux pays, et j'avais comme tous les libertaires français qui étaient présents, enfin ou étrangers même, je crois, j'avais Hommage à la Catalogne, ce qui était mon livre de non pas de chevet, parce qu'à l'époque on se déplaçait beaucoup, donc mais plutôt mon livre de voyage, et je baignais dans ce livre d'Orwell, et en voyant ces images qui montrait ce que racontait Orwell en images, et c'était une rencontre vraiment, cette rencontre a été un choc, quoi. Et donc ce premier rapprochement entre le texte d'Orwell et les images de la Révolution espagnole a été peut-être un événement fondateur, je dirais, si je dois chercher dans le passé. Et donc, mais à l'époque j'étais pas du tout réalisateur de films documentaires, et je n'y pensais pas beaucoup plus que ça. Et plus tardivement, je me suis mis à faire du documentaire. J'ai fait une formation aux ateliers. Enfin, j'ai une formation en histoire sociale, et puis ensuite j'ai fait une formation aux ateliers Varan, et qui sont des ateliers de cinéma documentaire créés notamment par Jean Rouch, et donc dans ce qu'on appelle la tradition du cinéma direct. Et j'ai fait un certain nombre de films, une dizaine de films, sur différents sujets qui ont un rapport avec l'histoire sociale, mais aussi avec beaucoup d'autres choses. Mon dernier film, par exemple, c'est un film qui s'appelle Les fantômes du sanatorium. C'est un film sur le séjour du jeune Roland Barthes au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet dans l'Isère. Et pour, enfin, je ne vais pas énumérer ma filmographie, mais je peux dire que une caractéristique qui revient beaucoup dans les films que j'ai faits, et c'est quelque chose dont je me suis aperçu en les faisant finalement et en creusant ce sillon, c'est que ce qui m'intéressait, c'était d'accéder par le cinéma, enfin par le cinéma documentaire, d'accéder au passé. Hein, voilà. Donc c'est une dimension pour moi très importante de travailler sur le passé. Souvent on dit que le cinéma documentaire et le cinéma direct en particulier sont des c'est un art du présent. C'est on filme la vie en train de se vivre, disons. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir ce que ce qu'il y a de vivant dans le passé, ce passé qui ne passe pas, comme on dit, quoi. Voilà.
Oui, Paxton, pour Vichy. Alors, pourquoi prendre hommage à la Catalogne en particulier au début du XXIe siècle? Parce que peut-être ce livre est une pierre angulaire de l'œuvre de Orwell, parce que c'est la confrontation de ses idéaux au réel. Orwell quitte la Grande-Bretagne pour aller sur le front d'Espagne.
Tout à fait. Je pense que, ce que j'aime beaucoup chez, une des choses que j'aime beaucoup chez Orwell, c'est le rapport qu'il y a entre son écriture et sa vie. Hein, c'est quelqu'un qui doit vivre les choses pour les écrire. Enfin, voilà. Il trouve la légitimité de son écriture dans l'expérience de la vie. Et Orwell était avait une sensibilité de gauche, évidemment. Il avait fréquenté déjà, il avait écrit dans la Dèche à Paris et à Londres, notamment le Quai du Vigan. Enfin, il avait enquêté sur la misère, mais il l'avait aussi très largement partagé. Et c'est quelqu'un qui, au départ, Orwell, vient plutôt de la bourgeoisie. Hein. C'était un élève, il avait été élevé dans une public school à Eton, qui était une école très prestigieuse, qui formait la classe dirigeante anglaise. Il avait été ensuite officier de police dans l'armée coloniale britannique, en Birmanie. Et en même temps, il avait des idées de gauche. Et donc, il a voulu aller voir ce qui se passait en Espagne, mais très rapidement, il a voulu mettre à l'épreuve ses idées. Hein, voilà. Donc, il a voulu vivre ce que vivaient les gens dont il faisait l'éloge, quoi, en quelque sorte, hein, et partager leur existence, prendre les mêmes risques qu'eux, et pour pouvoir rapporter leur histoire.
Voilà. Alors, donc, les brigades internationales, c'est 35 000 volontaires, dont les francophones, c'est mon petit point d'histoire, se sont donné le nom de Louise Michel. Donc vous êtes l'invité du groupe Louise Michel, donc je rappelle ce petit trait d'histoire. Et surtout, Orwell, lui, il s'engage au POUM.
Voilà, alors ça, c'est une question essentielle. C'est que, évidemment, la mémoire de la guerre d'Espagne est une mémoire qui complexe. Et on dit toujours que la mémoire, c'est celle des vainqueurs. Et donc, les vainqueurs, c'est les fascistes. Mais il y a une autre mémoire qui est une sorte de mémoire un peu officielle de ces événements qui a tendance à escamoter la dimension révolutionnaire des événements au profit de la dimension antifasciste simplement et de la dimension de guerre, quoi. C'est ce que un historien comme Bernard Bolotan a appelé le grand camouflage, hein, c'est-à-dire que dans cette révolution a été vaincue avant que la guerre soit gagnée par les fascistes. Et elle a été vaincue, elle a été écrasée, liquidée par notamment par les communistes, enfin les staliniens, qui à l'époque régnaient en maître sur l'international communiste, et par le biais de l'approvisionnement en armes de la République espagnole, prenaient en réalité le contrôle politique de l'Espagne.
Et ça, Orwell le montre très bien.
Et ça, Orwell, c'est exactement l'histoire que raconte Orwell.
Alors, je voudrais lire dans Hommage à la Catalogne, que nous vendons à la librairie Publico, dans la collection 10-18, donc en poche, moins de 10 euros. Il y a une note sur l'auteur, je voudrais la lire, si vous voulez bien. Frédéric.
Bien sûr.
Alors, George Orwell, 1903-1950, de son vrai nom Eric Arthur Blair. Il est né le 25 juin 1903 dans les Indes britanniques. Donc, comme vous l'avez dit, il suit une brillante scolarité en Grande-Bretagne au collège d'Eton. Après une courte carrière militaire de laquelle il démissionne, confronté en Birmanie à la bestialité de l'impérialisme britannique, et je vous conseille de lire son excellent livre « Birman », que nous vendons aussi à Publico, il décide de se vouer à l'écriture. En 1936, Orwell part en Espagne avec l'idée d'écrire sur la guerre civile, mais aussi de prendre part au combat contre Franco. Blessé, il retourne à Londres et publie « Hommage à la Catalogne », témoignage de son engagement dans les rangs du PUM, parti ouvrier d'unification marxiste, liquidé par les staliniens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient journaliste à la BBC et se lance dans l'écriture de La ferme des animaux, qu'il achève en 1943, mais ne parvient qu'à publier en août 1945, après avoir essuyé plusieurs refus d'éditeurs. Malade de la tuberculose, il entreprend la rédaction de son ultime roman, 1984, publié quelques mois avant sa mort, qui survient le 21 janvier 1950.
Voilà, donc, tout à l'heure, vous parliez des brigades internationales et de l'engagement de dizaines de milliers de volontaires dans les brigades internationales. Alors, ça aussi, c'est assez compliqué, parce que, en fait, les brigades internationales ont été très rapidement organisées par les staliniens, et notamment Marty, qui était un stalinien français, particulièrement orthodoxe, et donc c'était très différent ce qui se passait dans les brigades internationales, même si dans les brigades il y avait toutes sortes de gens qui venaient avec des motifs qui n'étaient pas forcément des communistes ou affiliés, mais en tout cas l'organisation des brigades était extrêmement verrouillée par les staliniens. Et Orwell s'est pas engagé dans les brigades, il s'est engagé, il est arrivé en décembre 1936, fin décembre 1936 à Barcelone, donc 6 mois après le début des événements, enfin de juillet, et il s'est engagé dans les milices du PUM. Alors lui-même n'était pas membre du PUM, hein, on a dit du PUM que c'était un parti trotskiste. C'est pas exact, bien que un forme de trotsky de gens de proche de du trotskisme ont rejoint le PUM parce que c'était une organisation importante, mais c'était plutôt, le PUM, c'était plutôt, on pourrait dire, des marxistes anti-staliniens. Voilà. En réalité, ils avaient rompu avec Trotsky, hein, ils n'étaient pas du tout d'accord avec la lecture que Trotsky faisait de la Révolution espagnole, mais enfin, ça, c'est un peu marginal. Et en gros, ils représentaient un courant révolutionnaire anti-stalinien, on pourrait dire. Hein. Et donc, Orwell les rejoint parce que il était en contact en Angleterre avec un groupe qui s'appelait l'ILP, qui était la gauche un parti à la gauche du parti travailliste, et il et qui défendait des positions marxiste, marxiste révolutionnaire plutôt. Mmh. Et donc il avait des contacts comme ça qui l'ont amené au POUM, puisque l'ILP était proche du POUM sans en être membre d'ailleurs. Et donc Orwell part avec les milices qui partent au front à ce moment-là, donc en l'occurrence celle du POUM. Mais lui-même, je crois qu'il adhérera brièvement à l'ILP à son retour en Angleterre, mais au moment où il est en Espagne, il rejoint le POUM, mais il aurait pu aussi rejoindre, il le dit lui-même d'ailleurs, il aurait pu rejoindre les milices anarchistes. Et à un moment, il avait même envisagé de s'engager dans les brigades internationales, et puis quand il a vu ce qui se passait dans les brigades internationales et le contrôle qui exerçait les staliniens, il a choisi de ne pas partir avec eux. Quoi.
Tout à fait. Alors, pourquoi, Frédéric, en 2024, faire un documentaire sur Hommage à la Catalogne ? Est-ce qu'il y a une résonance ?
Oui, très certainement, il y a une résonance, bien sûr. C'est une résonance qui n'est pas immédiate, hein, évidemment. Enfin, on a deux situations, évidemment. L'époque actuelle rappelle par de nombreux aspects la fin des années 30 en Europe, hein. La menace du fascisme, alors évidemment c'est pas tout à fait le même fascisme, hein. C'est pas un fascisme qui prend le pouvoir par des coups d'État comme ça a été le cas avec le général Franco. C'est un fascisme qui se rapproche sans doute plus de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, hein, donc une remise en cause sournoise et continuelle de l'état de droit, en quelque sorte, de la démocratie, et qui s'appuie sur un populisme diffus et de plus en plus massif, qu'on retrouve aussi bien dans le trumpisme que dans l'extrême droite européenne, quoi, en particulier en France. Donc évidemment il y a un rapport direct, mais ce rapport il se présente un peu différemment, et on sait que Orwell attachait beaucoup d'importance à la question de la mémoire, de la connaissance du passé, et pour lui la connaissance du passé était la clé du présent et du futur. Et donc, par cet aspect-là, on peut penser qu'évidemment, il est intéressant de revenir sur cette époque, d'essayer d'en retrouver quelque chose de vivant, et d'utiliser les moyens du cinéma pour accéder à ce passé. Et on peut penser que ce qui caractérise notre époque, c'est l'absence d'horizon. Hein, c'est l'absence d'horizon qui est redoublée évidemment par la catastrophe du réchauffement climatique, et qu'on a besoin. On est dans une situation. Fascisme montant, enfin on est dans une situation de ce qu'on pourrait appeler plutôt une dystopie, hein, quelque chose qui est angoissant, qu'on a du mal à nommer, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est à la fois très archaïque et très technologique, et donc on a besoin de retrouver, à mon avis, enfin moi j'ai besoin de retrouver quelque chose du désir qui s'exprimait massivement à cette époque, d'un autre monde, hein, d'une utopie.
D'accord. Alors, le livre d'Orwell, Hommage à la Catalogne, il commence parce que Orwell décrit comment la révolution et les anarchistes remodèlent la ville. Et à la fin du livre, c'est malheureusement les staliniens, quelque part, qui ont qui ont annihilé cette utopie anarchiste.
C'est ça. Il y a trois temps dans le livre d'Orwell, et il y aura également trois temps dans le film. Trois temps, structure tripartite classique de la tragédie, hein, quelque chose de finalement très ancien. Et c'est la première partie, qui est une partie un peu enchantée, où Orwell découvre émerveillé ce qui se passe. Enfin, en tout cas, avec un enthousiasme immense, même s'il y a des choses qui ne lui plaisent pas du tout, cette révolution, ces transformations, la classe ouvrière qui prend le pouvoir, hein, c'est comme ça qui a pris le pouvoir, c'est comme ça qu'il le vit. Et puis, donc, il décide, voilà, qu'il doit en être, forcément, même si son objectif, c'est aussi d'écrire, hein, donc, mais comme je le disais tout à l'heure, il doit le vivre pour pouvoir l'écrire, et donc il décide de partir au front. Bon, il s'engage dans la milice du Paume, et il vit l'épreuve de la guerre, qui est extrêmement violente, hein. En plus, la guerre, pour lui, le front d'Aragon, c'est le dénuement des miliciens, l'absence, le manque d'armes, notamment, ils n'ont pas d'artillerie, donc ils ne peuvent pas continuer à attaquer, ils sont obligés de se cantonner, de se terrer sur les positions qu'ils ont conquises à l'automne, et il vit cette expérience qui est difficile, bien sûr, mais qui est aussi une expérience de fraternité incroyable, parce que il n'est pas pris dans un système justement militaire, c'est-à-dire que le système qui est en place sur le front d'Aragon, en tout cas au moment où il y est, et qui va exister jusqu'à la fin de l'année 37, enfin jusqu'à l'été 37, excusez-moi, et ce système des milices, c'est un système démocratique, et aussi paradoxalement que ça puisse paraître dans une situation de guerre, et système démocratique et même de démocratie très large, c'est-à-dire que ce système démocratique qui se traduit principalement par l'absence de rapport hiérarchique entre les officiers, oui, ceux qui dirigent et ceux qui obéissent, quoi. Donc il y a pas de il y a des rapports égalitaires entre les officiers, et enfin qui n'ont pas aucun privilège comme officiers, et les simples combattants, hein, voilà. Donc c'est ce système des milices. Les miliciens disaient miliciens oui, soldats jamais, hein. C'est-à-dire que notamment les miliciens anarchistes, mais aussi les miliciens des partis anti-staliniens, enfin de gauche anti-staliniens, disaient que s'ils devaient se battre, ils se battaient pour la révolution sociale, ils se battaient pas pour établir une république bourgeoise. Or, bon, c'était une guerre, et les logiques de la guerre se sont imposées. Donc, on peut dire aussi que la guerre dévorait la révolution et affaiblissait le camp de la révolution au profit des logiques de la guerre, qui sont des logiques de pouvoir, évidemment, de pouvoir autoritaire, de surcroît.
Voilà. Alors, Frédéric, nous allons faire une pause. Et nous allons revenir en deuxième partie, où vous allez nous expliquer plus en détail comment vous faites le film.
D'accord.
Thank you. Chers auditeurs de La Rage Dedans, l'émission de Groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Frédéric Goldbrum, réalisateur du futur documentaire sur Hommage à la Catalogne d'Orwell. Frédéric, vous avez une petite...
Oui, je voulais prolonger ce que je disais tout à l'heure. Je disais que c'était une structure de le livre Hommage à la Catalogne était construit en trois parties, hein, selon une structure tripartite classique de la tragédie finalement. Et donc on a cette première partie qui est une partie très enthousiaste de découverte de la Barcelone révolutionnaire en pleine révolution. Et alors évidemment, si on rentre dans les détails, la révolution commençait à l'hiver 36-37, commençait à être affaibli, je le disais tout à l'heure, en raison notamment de la pression de la guerre et du contrôle que les Staliniens exerçaient progressivement sur les appareils politiques et institutionnels en échange des livraisons d'armes en particulier. Et donc on avait encore, enfin pour en tout cas pour Orwell qui débarquait de Londres, il y a une phase d'enthousiasme comme ça immense, et ensuite il part sur le front et il vit une sorte de mise à l'épreuve de cet enthousiasme et de confrontation entre les lois de la guerre et puis le désir des miliciens, des anarchistes ou du POUM de fonctionner, de faire une guerre révolutionnaire, de fonctionner différemment d'une armée classique et en opposition au principe d'une armée classique. Et ensuite, il y a une troisième partie, on pourrait dire, qui commence avec les événements de mai 37, et où Orwell revient, il passe trois mois au front, il revient fin avril à Barcelone, et il était complètement coupé de Barcelone depuis trois mois, et il découvre que Barcelone a changé, que bah, il constate que une sorte de retour à l'ordre avec les milices qui sont incorporées à l'armée populaire, et une armée populaire qui classique, hein, enfin en tout cas qui essaye de ressembler à une armée classique, donc avec une hiérarchie très forte. Et il constate aussi que les tensions entre les révolutionnaires espagnols et donc la classe ouvrière espagnole et l'appareil stalinien, notamment, pas seulement stalinien d'ailleurs, parce que les staliniens sont en Espagne sont alliés avec selon la volonté de Staline du moment, sont alliés avec la bourgeoisie républicaine, hein, donc puisqu'il y avait une partie de la bourgeoisie qui avait rejoint Franco, mais il y avait une partie qui revendiquait un système démocratique, et donc il y a une alliance entre les staliniens et la bourgeoisie républicaine pour liquider les conquêtes de juillet 36, les conquêtes de la révolution sociale, et notamment pour désarmer les anarchistes, mmh, et pour reprendre toutes les positions qui étaient stratégiques, qui étaient encore occupées par la CNT, enfin par les anarchistes. Et donc ces tensions culminent dans ce qu'on a appelé le Los Hechos de Mayo 37, dans les événements de mai 37, où les staliniens essayent s'emparent du central téléphonique de Barcelone, qui était contrôlé par les anarchistes, et provoquant une semaine d'affrontements armés. Enfin, la ville se couvre de barricades, la grève générale est déclarée spontanément, et pendant une semaine, on a une sorte de guerre civile dans la guerre civile, et qui se termine par une sorte de match nul apparent, et en réalité qui permet réellement aux staliniens de reprendre le pouvoir. Et donc Orwell repart au terme de cette semaine d'affrontement, il repart sur le front, hein, puisque sa permission est terminée, et là où quelques jours après il prend une balle dans la gorge. Et évidemment, il y a un rapport entre les deux. Enfin, pour, à mes yeux, en tout cas symboliquement, voilà, c'est la mort de la Révolution. Et donc, il est blessé très grièvement. Hein, il est à quelques millimètres d'y laisser sa peau. Il passe ensuite plusieurs semaines à l'hôpital militaire de Tarragone. Et il revient à Barcelone. Quand il revient à Barcelone, il découvre que le POUM a été interdit, qu'on traite les miliciens du POUM d'agents de fascistes au service de Franco, et lui-même
est recherché.
Andrés Nin, un représentant du POUM, a été assassiné. Beaucoup de militants du POUM sont emprisonnés ou assassinés. Orwell est recherché et il est avec sa femme à Barcelone. Sa femme était venue le rejoindre en Espagne. Elle n'était pas sur le front, mais elle travaillait au POUM, pour le POUM à Barcelone. Enfin, pour l'ILP à Barcelone. Et donc, il décide de quitter l'Espagne, que c'est fini, quoi. Et il rentre en Angleterre et il écrit aussitôt son hommage à la Catalogne.
Voilà. Alors, la voix du documentaire, c'est celle d'un grand acteur que j'aime beaucoup, Bruno Podalydès. Comment tu as réussi à le persuader ?
Bruno avait fait la voix de Roland Barthes dans mon précédent film, mon dernier film, Les Fantômes du Sanatorium. J'avais beaucoup aimé sa voix et on avait très bien travaillé. Donc voilà, je lui ai proposé de faire la voix d'Orwell et il a accepté. Voilà, donc
parfait. Ça donne envie. Donc le documentaire Une Heure sortira en printemps 2025. Il est d'abord fait pour la télévision et ensuite il sortira en salle. Alors comment tu le construis, cher Frédéric ?
Alors, ce que je disais au tout début de cette émission, c'est que j'ai découvert ces images avec beaucoup d'émotion quand j'étais dans ma jeunesse. Et ces images, ensuite, j'ai eu un rapport un peu différent avec elles, puisque j'étais devenu réalisateur de films documentaires et particulièrement intéressé par cette question du passé. Et ces images, en les revoyant, enfin, c'est le propre des images d'archives, c'est que c'est des images à la fois très lointaines et en même temps très proches. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ces images qui reste toujours au présent. Et qui reste au présent pour plusieurs raisons. D'abord parce que les protagonistes qu'on voit sur ces images ne connaissent pas la suite. Ils ne savent pas que ça va mal se terminer. Donc, ils sont tout cet enthousiasme, cette énergie se retrouve dans les images. Et ils nous regardent beaucoup. Notamment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a beaucoup de regards caméra. Hein, quelque chose que le cinéma de fiction, en principe, prohibe. Hein, on dit qu'il ne faut pas regarder la caméra. Et là, ils regardent beaucoup la caméra. Et ils la regardent franchement. C'est-à-dire qu'ils instaurent un rapport d'égalité avec ceux qui les filment. Donc, ce qu'on filme là, c'est l'égalité à l'œuvre incarnée. Hein. Donc, ça, c'est très fort, ce présent des images. Et l'autre raison, évidemment, pour laquelle ces images restent au présent, c'est la projection. Hein. Quand on les regarde, ça se passe dans le présent. Hein. Donc, présent de la projection, présent des images. Et c'est plus qu'un présent, finalement, c'est que... pour ces images des révolutionnaires espagnols, ce qu'on filme, c'est un présent, mais c'est aussi un présent qui est tendu vers le futur, hein, parce que ce présent est très habité par l'idée d'un autre futur, qui est une idée centrale chez les combattants, hein, pas chez les combattants, chez les ouvriers espagnols, catalans plus précisément, mais aussi chez les paysans d'Aragon, puisque le communisme libertaire a été instauré en plusieurs points de l'Aragon avec assez souvent une abolition même de l'argent, hein, de la monnaie, quoi.
Parfait.
Voilà, donc il s'agit de retrouver quelque chose du présent de ces images, d'accéder à ce présent et de regarder ces images en essayant de voir qu'est-ce que Orwell a vu en 1945. en Espagne. Et de refaire avec lui une sorte de chemin, hein, qui nous emmène dans ces images, que ces images ne soient pas des simples illustrations, mais soient restituées dans leur matière vivante, hein, et que on se fasse nous-mêmes un chemin dans ces images, quoi. C'est-à-dire que l'idée, ce que j'essaye de faire, en tout cas avec la monteuse Aurélie Ricard, avec laquelle je travaille, c'est de retrouver retrouver quelque chose du présent. Alors c'est pas bien sûr ce qu'a vu Orwell, on n'en sait rien, hein, puisque Orwell n'avait pas de caméra, ni même d'appareil photo. Il avait un appareil photo, mais qu'il a perdu. Et mais d'essayer de comprendre, enfin de sentir ce que Orwell aurait pu voir. Alors aurait pu voir dans le groupe dans lequel il était, c'est-à-dire la milice du Poum, mais aussi ça aurait pu être tout aussi bien une milice anarchiste, puisque d'ailleurs sur le front d'Aragon, à cet endroit précis, sur le front de Huesca, combattaient aussi bien, combattaient deux colonnes de miliciens, celle du Poum et celle des anarchistes, la colonne Francisco Ascaso. Voilà, et d'autres colonnes évidemment qui étaient un peu plus éloignées.
D'accord. Alors, le film, tu as expliqué qu'il va faire trois parties, comme le récit de Hommage à la Catalogne. Comment tu articules les trois parties dans le documentaire, si c'est possible, de pas trop dévoiler pour donner envie aux gens de le regarder lorsqu'il va être projeté?
Bon, c'est toujours difficile pour moi de parler d'un film en cours, hein, surtout dans cette période particulièrement délicate de la fabrication du montage. Mais l'idée, c'est de retrouver, on a des images de Barcelone en révolution, on a des images de l'entraînement, parce que voilà, l'autre, excusez-moi d'être c'est un peu pas très clair, mais l'autre caractéristique, c'est que ces images d'archives, donc elle documente un événement exceptionnel, hein, qui est la seule révolution prolétarienne en Occident du XXe siècle. Mais de plus, c'est des images qui ont été, pour l'essentiel, tournées par les acteurs eux-mêmes de ces événements. C'est-à-dire que en Catalogne, à ce moment-là, l'industrie, ce qu'on appelait l'industrie du spectacle, donc qui diffusait les reportages télévisés, les reportages cinématographiques, ce qu'on appelait les actualités cinématographiques, qui étaient diffusées toutes les semaines au cinéma en première partie de programme. Faut pas oublier qu'il y avait pas la télévision évidemment à l'époque. Et donc ces images, elles ont été tournées par les opérateurs anarchistes, principalement, j'ai anarchistes parce que du côté du Poum, il n'y avait pas d'opérateurs, il n'y avait pas de cinéastes, hein, même s'il y avait beaucoup de monde. Et donc, c'est des images essentiellement tournées par les opérateurs de la CNT, cette période a été documentée sur le plan du cinéma, en tout cas par les acteurs eux-mêmes. Voilà. Donc, j'utilise cette force, hein, pour nous rapprocher de cette expérience révolutionnaire. Et donc, ces images, on retrouve des images donc de Barcelone en révolution, ensuite on retrouve des images de l'entraînement à la caserne Lénine, où Orwell s'entraînait avec les milices du Poum, dans des conditions assez particulières, on le verra. Et ensuite, les images du front d'Aragon, bah, c'est la même chose, elles ont été tournées par les anarchistes. Voilà, donc on a une assez grosse matière, un peu complexe à utiliser, mais on a une grosse matière et qu'on retrouve ensuite. Alors pour mai 37, c'est un peu plus compliqué, mais on a notamment un très gros travail photographique d'un photographe catalan connu qui s'appelle Agustí Centelles, qui a documenté tout ça. Voilà.
Parfait. Alors, je ne sais pas si tu as en mémoire l'excellente fiction d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est Ken Loach, sur la Révolution espagnole, qui est Land and Freedom.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, pour ceux qui l'auraient vu, Land and Freedom, et qui parle justement du Poum, Comment tu quelle est la différence, je vais schématiser, entre ton documentaire et une fiction qui a été déjà tournée sur cette partie-là de la Révolution espagnole?
Bon, moi j'aime beaucoup Ken Loach, hein. Je pense que...
parce qu'il s'est inspiré d'Hommage à la Catalogne.
Il s'est très largement inspiré d'Hommage à la Catalogne, mais il s'en est inspiré, hein, c'est-à-dire voilà. qu'il s'en est beaucoup éloigné aussi.
Tout à fait.
Et donc, il a personnalisé les choses à travers le destin de ce jeune Anglais. De ce jeune Anglais qui tombe amoureux en Espagne, tout ça. Bon. Voilà, donc il y a une sorte de romance, si vous voulez. Bon, voilà. Et puis sinon, il y a très peu d'images d'archives et l'essentiel des images, ce sont des images de fiction. Et moi, je fais un autre film. En plus, j'ai pas du tout les moyens financiers d'un long métrage de fiction. Et moi, je suis dans les images qui ont été filmées. Hein, c'est-à-dire que, voilà, je suis sans doute dans quelque chose qui s'approche plus de ce qui s'est passé, hein, de la réalité
du terrain,
si on peut dire. Voilà.
Alors, justement, parlons des moyens. Lorsque nous avons pris le groupe Louise Michel la décision de vous inviter, toi et l'équipe, mais surtout toi, il manquait 15 000 euros pour faire le montage. C'était la somme qui était avancée pour expliquer qu'il y avait un financement participatif en ligne qui est mis sur le site des Amis de la Commune et sur le site qui vient d'exister, qui est un très bon site, qui est riposte.org, qui est un site pour canaliser les initiatives antifascistes. Alors, qu'en est-il des moyens financiers? Il manque toujours 15 000 euros.
Non, on a lancé la souscription il y a plus d'un mois maintenant, il y a un mois, et on doit en être à 6 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, ça démarre bien, hein, ça démarre bien. La souscription, l'appel à financement participatif va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. En fait, c'est pas exactement pour le montage, c'est pour le montage son qu'on a besoin surtout d'un complément. Enfin, c'est pour le film tout simplement. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait avec des petits moyens, hein, en principe, un film, disons, si on veut être un peu plus précis, un film, une heure de documentaire à la télévision, on est plutôt autour de 150 000 euros, disons, pour simplifier. Et là, on fait un film avec, pour l'instant, 65 000 euros.
Hein ? Ah oui.
Donc, c'est évidemment très peu, parce que... Bon, la fabrication d'un film, ça coûte assez cher, même si les gens sont très mal payés. Mis bout à bout, tout ça, les dépenses sont assez considérables, il faut du matériel, etc. C'est pour ça qu'on a imaginé on a commencé des recherches de financement classique, hein, donc quand on fait un documentaire, le système français de financement est construit comme ça. Il faut avoir une chaîne de télévision pour demander les aides du Centre National du Cinéma, qui s'occupe aussi de l'audiovisuel. Et donc, il est indispensable d'avoir une chaîne pour avoir un financement. Un financement public. On a eu la chaîne Histoire. Ce qui permettait d'amorcer la pompe, disons, d'avoir un petit financement. Ce financement couvre une partie des dépenses, mais donc on a eu les aides ensuite, les aides publiques, mais ce financement est insuffisant pour finir le film. En particulier pour faire le montage son, toute l'opération de tout le travail sur le son dans le film qui joue un rôle essentiel, puisque notre travail consiste à... on utilise des images, on n'utilise pas, parce que c'est des images qui sont souvent, dans les films originaux, qui sont souvent accompagnées d'un commentaire de propagande, hein, il faut le dire, ce qui n'est pas du tout la démarche d'Orwell. Donc, c'est de retrouver ces images et de travailler sur le son direct qu'il y a dans ces images. Hein. Donc, ce qu'on appelle le son direct, c'est les sons, les ambiances sans les commentaires, quoi, en gros. Mm-hmm. Hein. Et qui sont des commentaires, je répète, de propagande. Et Orwell avait un problème avec la propagande. Hein. Il était, qu'elle soit anarchiste ou qu'elle soit fasciste, il est, ou stalinienne, il n'aimait pas la logique de la propagande. Hein,
toute son œuvre le crie.
Voilà. Et donc, il faut retrouver une vérité dans ces images et qui passe par ce travail sur le son. Le travail sur le son, enfin, les sons directs nous permettent aussi de nous rapprocher de ces images. Et donc, c'est un travail essentiel. Et pour cela, on avait besoin de... Enfin, les amis de Faisons Vivre la Commune et les amis de Maurice Rachus ont proposé d'organiser ce financement participatif qui est très utile, enfin, qui est même indispensable pour terminer le film, en tout cas pour faire le film qu'on souhaite faire. Quoi.
Voilà. Voilà. Alors, donc, ceci explique votre invitation, cher Frédéric.
Merci.
Alors, on va donner les sites internet où se trouve le lien pour le crowdfunding. Donc, c'est le site de Faisons Vivre la Commune et riposte.org. Donc, il manque à peu près 11 000 euros. Soyez généreux si vous le pouvez. Merci beaucoup. Donc, merci Frédéric. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, peut-être dire que voilà, donc il y a un financement comme ça un peu mixte, à la fois un financement classique et en même temps un financement un peu militant, on pourrait dire. Et ce financement militant, enfin, d'une façon générale, il se retrouve aussi dans toutes les contributions qu'il y a eu pour faire ce film, l'apport des archives par l'association, enfin le réseau Rédic et l'association du 24 août 1944. La musique, hein, l'ami Jean Rochard qui s'occupe du label Natto m'a proposé, voilà, dès qu'il a entendu parler de ce projet, il était emballé, il m'a dit bah écoute, moi je te propose de réunir quatre musiciens avec lesquels je travaille et chacun va écrire plusieurs morceaux pour la musique du film, voilà, et ça s'est passé comme ça, donc il y a tout un élan comme ça, une participation collective. Et je pense que cette énergie-là, je voudrais qu'elle se retrouve dans le film. Voilà.
Elle va se retrouver dans le film qui va sortir au printemps 2025. Donc, je vous rappelle les deux sites où il faut faire un don. C'est Faisons Vivre la Commune et riposte.org. Merci Frédéric.
Merci à vous.
De rien. Merci à Jean-Michel sans qui il n'y aurait pas d'émission. qui fait une technique formidable. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour La Rage dedans. Et d'ici là, faites attention à vous et portez-vous bien. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui est mon juge, tel qu'un maghrébin, j'étais blessé chez mon voisin. La rage, Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs, l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs, la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage. La rage. La rage.
Passait dans Paris qu'est si bon. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de sol, entíname. Soñé pobreza. Mundo querido, aliviame. Sueño de Solentina.
Radio Libertaire 89.4.
They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Son negociam, hoc veninta del cor, porque canto la flor, flor de la intervinter ni esperan. Y la chin venuce mi, aura grec, aura franca, y canto con mi, persa ma voce, ed iranta del cor, esperan.
Arbo. Bo. Bo. Boto. Chocolate. Do. Do. Dento. E. E. Elefanto.
Hipopotamo. Ho. Ho.